Donc on a dit qu'on partait du moins bon au meilleur, donc au numéro 2. Je propose de parler de The Great Passage.
Je suis pas d'accord.
Histoire de faire hurler quelques personnes. Donc The Great Passage, c'est le film de Ishii Yuya, qui parle d'un jeune homme extrêmement timide, qui a même du mal à communiquer, comme beaucoup de personnages du film, ouais. C'est le cas dans le film précédent d'ailleurs,
ouais.
Et qui se retrouve finalement embarqué dans l'édition d'un dictionnaire qui va mettre plusieurs années à se faire, et finalement il va apprendre à se faire des amis, à trouver sa place dans la société, à se passionner pour quelque chose, et donc à exister par lui, et surtout à apprendre à utiliser les mots à travers cette expérience. Le film c'était le film qui était présélectionné par le Japon pour les Oscars. Bon, finalement, il n'y sera pas. Donc, c'est un film qui est quand même assez important dans le paysage cinématographique japonais. Est-ce que pour vous, c'est le deuxième moins bon film de Kinotayo?
Non.
Ou est-ce que je me trompe complètement?
Oui. Non, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que c'est un superbe film sur les mots, sur le langage, sur l'évolution de notre manière de communiquer. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est comment le réalisateur, à travers cette histoire qui, pourtant, paye pas de mine, arrive à avoir un regard sur l'évolution de la société japonaise depuis les années 90 jusqu'à la fin des années 2000, à peu près. Parce que le film se déroule sur 10 ou 15 ans. Je trouve que, déjà, le film est superbement joué. Le personnage principal... l'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle.
Tu veux dire Matsuda
Voilà. Ouais. il arrive en fait à intérioriser un peu toutes ses émotions, puis à les faire ressortir au fur et à mesure dans le film. Et je trouve qu'il y a une simplicité dans son jeu qui m'a beaucoup touché. Et sinon, on va parler aussi d'Aoi Miyazaki, forcément, qui est... des plus jolies actrices japonaises, sans conviendrez, qui est aussi le pendant féminin du film, qui est absolument superbe dans le film. Et donc, en fait, le film parle de l'évolution de notre manière de communiquer, mais aussi de comment s'intégrer dans notre société en suivant sa passion, quoi. Et je trouve que c'est une morale assez saine, en fait, de présenter ça comme ça. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé le film pour ça.
Mathieu, tu partages cet avis donc
absolument,
je
défonce
le film.
Je suis absolument d'accord. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce film, c'est le comparatif que j'ai trouvé par rapport au cinéma, c'est-à-dire que le sujet qu'on traite, la base, c'est la grammaire, enfin c'est l'écriture, la façon dont elle évolue, et c'est quelque chose qui prend un temps fou. Et finalement, on se retrouve à avoir, par ce dictionnaire, qui met 15 ans à être créé, une sorte de reflet du cinéma, qui sont souvent des œuvres qui mettent du temps à aboutir, et surtout qui ont une grammaire propre, et qui évoluent tout le temps. Et je trouvais que c'était intéressant qu'il y ait cette sorte de pont, en fait, de par le sujet, entre le cinéma et l'écriture, en fait. Voilà.
Oui, et puis en plus, même au niveau de la mise en scène, il y a un espèce de côté fabriqué, comme ça, qui prend du temps. Et il y a aussi une espèce de... Au début, c'est très resserré autour des personnages. Par exemple, l'endroit où il crée le dictionnaire, où il récolte tous les mots, c'est un espèce de bureau rempli d'étagères, rempli de bouquins partout, où ils sont une espèce d'atelier, comme ça, où ils sont très resserrés. Et puis au fur et à mesure, on voit que le cadre s'élargit un peu, de plus en plus, quand on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui est impliqué sur le projet. Je trouve que le cadre s'élargit autour des personnages, on voit qu'ils s'épanouissent, donc le cadre s'épanouit aussi autour de ces personnages-là.
Bah, autant, là je suis d'accord parce que c'est assez cohérent avec le fait que le personnage s'ouvre au monde, et donc finalement le cadre s'élargit à de nombreux personnages. Après je reviendrai sur deux choses que vous avez dit, il y a déjà cette question de la temporalité. Moi j'ai pas vu le temps passer dans le film en fait, enfin je trouve que le film utilise un procédé... qui est l'ellipse en fait, c'est-à-dire qu'on a une première partie qui est le personnage qui découvre sa passion, il y a une ellipse de 8 ans, ou de 15 ans, je ne sais plus exactement, et finalement on voit les répercussions, ce qui fait que le film ne travaille pas du tout la durée, mais montre juste deux moments dans une durée, donc crée une illusion de durée. Donc ce travail du temps, moi je l'ai pas senti. Après, la thématique effectivement de l'évolution du langage cinématographique par l'évolution du langage, hein, c'est une thématique extrêmement intéressante. Mais dans ce cas-là, pourquoi le filmer comme si on était en 1960 et qu'il s'était rien passé dans le cinéma depuis, on va dire, Ozu, ou je sais pas. Enfin, c'est quand même extrêmement classique dans la construction de la mise en scène. Effectivement, enfin, on repère cet élargissement du plan, mais il n'y a aucune inventivité propre. Et y compris quand les personnages vont chercher des mots, on ne sent pas par la mise en scène cette évolution du langage. Tout passe par quelques scénettes où les personnages vont recueillir des mots. Alors, ils cueillent des mots nouveaux pour le dictionnaire, mais il n'y a pas de traduction cinématographique de cette évolution. Moi, j'ai trouvé en fait le film très, alors, à la fois très classique, à la fois très plat dans son contenu. Moi, ça m'a vraiment fait penser à un shonen avec quelqu'un qui n'a pas sa place socialement et qui découvre sa place par une passion. Et finalement, on a le début du shonen, parce que c'est le début. On zappe 15 tomes, et on se retrouve au tome 15 avec l'aboutissement créatif du personnage. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'est un film extrêmement, extrêmement convenu, plutôt bien fait, je l'ai regardé sans ennui, mais très, trop convenu pour moi. Bon, il faut dire quelque chose pour le défendre, parce qu'on va pas finir sur une note négative.
Je suis pas d'accord, parce que même s'il y a l'ellipse, en fait...
Moi, je me suis imaginé, en fait, comment ça après, en repensant au film, comment ça aurait pu être entre cette première grosse partie et cette deuxième grosse partie. Et finalement, je trouve que tout ce qui est intéressant est dit dans ces parties-là, en fait. Il n'y a pas besoin, après... On ressent un peu... Il y a juste, par exemple, au départ, on voit qu'ils travaillent sur ils écrivent forcément, ils sont dans les années 90, il n'y a pas encore beaucoup de... Enfin, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas Internet, enfin, c'est juste le début. Donc, ils travaillent c'est artisanal, quoi. C'est, voilà. Et puis, quand on passe à la deuxième partie, on voit que ça y est, ils ont des ordinateurs, ça va beaucoup plus vite. Il y a une vraie évolution aussi au niveau des objets, dans le décor et tout ça. Et je trouve que rien qu'avec ça, on sent justement le passage du temps et l'évolution des mots. Et puis il y a aussi pas mal... Tu dis qu'il n'y a pas de scène cinématographique qui représente cette évolution de notre manière de communiquer, mais par exemple, la scène où ils sont dans un McDonald's ou je sais pas quoi, enfin dans un fast-food...
Et ils vont écouter les jeunes.
Oui, quand ils écoutent les jeunes.
Sur le dialogue, enfin, finalement...
Non, parce qu'il y a un jeu sur le cadre avec une espèce de quiproquo où elle pense que...
Ouais, c'est vrai, c'est comique, mais on voit, ouais, mais... Par exemple, quelque chose de tout simple. On a parlé de l'évolution qu'il y avait dans la mise en scène pour l'ouverture du personnage au monde, mais il filme la première partie, la deuxième partie de manière exactement identique, enfin, avec la même grammaire cinématographique, en fait. Il n'y a pas une évolution dans la mise en scène qui montrerait qu'on est passé d'une époque d'un certain cinéma de celui des années 90, où c'était filmé comme ça, ça pourrait être artificiel, un peu du pastiche, au cinéma des années 2000, qui est filmé d'une autre manière. Finalement, les deux sont filmés de la même façon. C'est en ça que je trouve que ça manque un peu d'audace et d'inventivité, en fait. Bon, on va passer.
Simplement, le réalisateur n'a pas pris parti de représenter sa mise en scène comme ça. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est quand même une belle histoire. Il y a une belle histoire d'amour, déjà. Je trouve que, par exemple, la rencontre entre le héros et la fille de la propriétaire. Qui est assez magnifique. Puis il y a le personnage aussi du chat qui est une espèce de lien, qui représente une espèce de lien entre ces deux personnages, parce que c'est grâce à lui, en fait, qu'il la voit pour la première fois, parce que le chat se barre sur le balcon et puis il veut aller le chercher, et puis là on voit le chat qui est dans les bras du personnage joué par Hayao Miyazaki. Et je trouve qu'il y a une espèce de jeu comme ça sur les liens qui se créent à travers cette passion. Parce qu'elle aussi, elle a une passion, elle est fan de couteaux, elle travaille dans un restaurant de sushi, je crois, et justement, comme elle a cette passion des couteaux, et lui, cette passion des mots, je trouve qu'il y a une espèce de jeu entre les deux, et ils s'acceptent mutuellement. Alors, finalement, c'est un peu ça, l'amour, c'est de s'accepter mutuellement, de faire des sacrifices pour l'autre.
En fait,
je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans le film.
Ce que je reproche un peu, c'est plus cette morale, finalement, très traditionnelle japonaise, qui est qu'à partir du moment où on s'implique dans quelque chose... On doit pouvoir sacrifier tout le reste pour s'accomplir dans cette chose. Et une sorte de...
On doit pas forcément, mais il y a une acceptation des personnages.
C'est ce qu'ils font. Il y a quand même une scène, alors c'est dans le dernier tiers du film, où ils doivent finir leur dictionnaire, bon, pour des raisons narratives extérieures, mais en tout cas, toutes les personnes dans la pièce qui sont pourtant un peu extérieures à la production de ce dictionnaire acceptent de travailler jour et nuit sur ce dictionnaire. Et il y a ce côté-là qui est une espèce d'absolu dans ce dans quoi on s'incarne. Enfin, il faut s'incarner complètement dans sa passion. Moi, au contraire, que je trouve pas complètement sain. Et je pense qu'il y a un peu ce caractère excluant de la passion japonaise pour quelque chose qui fait que la vie a quand même d'autres facettes que uniquement le travail et s'accomplir par le travail. Et beaucoup de films japonais, dont The White Passage, nous montrent un petit peu cette morale-là.
Au Japon, ils ont une mentalité qui est assez tournée par le travail. Ça, c'est pas nouveau, mais pour moi, tant que les personnages s'épanouissent et qu'on les voit s'épanouir, il n'y avait pas de souci pour moi. C'est ce qu'ils montrent, en fait. C'est des personnages épanouis. Donc, au final, ça reste ça.
Ouais, alors pour le coup, là, je vais plutôt prendre le parti de Victor, puisque pour le coup, cette fameuse histoire de... En plus, tu prends la scène exacte des étudiants qui se sacrifient corps et âme pour l'aboutissement de ce dictionnaire. Ça sonne un peu faux, quand même. Enfin, y a un côté... ça a une sorte de ressort scénaristique un peu trop évident, en fait.
C'est vrai que ça fait shonen, tu disais que ça faisait shonen.
Ouais. Alors, c'est une shonen.
Après, moi, ça... terminer le truc et toute l'équipe est derrière.
Ouais, mais ça ne me dérange pas plus que ça, finalement, parce qu'ils comprennent que c'est quelque chose d'important, que c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit ces personnages, toutes ces personnes qui viennent les aider pour travailler jour et nuit, machin. C'est vrai qu'il n'y a pas d'introduction avant de ces personnages, donc on peut se demander qu'est-ce qu'ils foutent là, pourquoi ils les aident.
Et puis après, c'est peut-être une façon de réfléchir très française, mais non. En plus, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à y gagner à faire ça? À part gagner à la route.
Justement, c'est sûr. On n'a pas la même mentalité, en fait.
La différence.
Absolument, absolument, mais. Il y a ce fameux goût du sacrifice, mais...
Moi qui me gêne toujours.
Est-ce que il n'est pas poussé à outrance là, dans ce film-là? Est-ce que finalement, est-ce qu'on est sûr que 25 étudiants iraient jusqu'au bout, coûte que coûte, pour aboutir, pour finalement donner gain de cause à juste un mec? Parce que c'est ça le fond de l'histoire, c'est juste permettre au héros d'avoir le beau rôle. C'est un peu ça. Ou en tout cas qu'il accomplisse sa mission comme il s'en était investi il y a 15 ans auparavant, quoi. Donc est-ce qu'il y a 25 personnes qui seraient capables de faire ça? Je sais pas. Enfin...
En France, je suis pas sûr.
Non, en France, c'est sûr que non.
Mais on n'a pas la même mentalité, en fait.
Je sais pas.
Après, il faudrait aller vivre en immersion au Japon pendant 10 ans pour vraiment...
C'est vrai qu'on a affaire parfois dans le film à quelques ressorts scénaristiques un peu faciles, un peu...
Mais c'est aussi ça, peut-être aussi le problème. C'est-à-dire que moi, ça me pose un peu problème moralement par rapport à cette vision de la société japonaise. Et c'est peut-être justement s'il y avait eu cette perception de la durée différente, s'il y avait eu des scènes pour introduire les autres personnages, peut-être qu'on verrait cette scène différemment. On comprendrait plus les enjeux, les choses seraient posées différemment. Et à mon avis, le sens de l'échec de cette scène, c'est qu'il n'y a pas cette temporalité qui est assez ressenti par nous en tant que, enfin par moi en tout cas en tant que spectateur, pour saisir l'importance pour l'ensemble de ces personnes du projet du dictionnaire.